Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La reine, l'émission d'information locale de Canal B, va commencer dans un instant. Et au sommaire, l'info du jour, on revient sur la convocation d'un syndicaliste brestois pour ses prises de position. Reportage réalisé par Ambre lors de l'occupation de Sciences Po Rennes, c'était mardi, en soutien aux Palestiniens. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, une interview avec Joël Da Silva pour parler du dernier projet de l'association Point Bar. Une recommandation, c'est la tombe de mouton à l'écomusée de la Bintinet et puis la chronique de la Cimade. Bienvenue dans la reine. Et comme chaque jour, on va commencer l'émission d'information locale avec l'info du jour, une que je choisis parmi d'autres dans la presse locale. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur de l'actualité fraîche, mais il fallait que j'en parle quand même. Vendredi 19 avril, Olivier Cuzon, qui est enseignant et syndicaliste brestois chez Sud Éducation, il a été convoqué par la police. Il a alors découvert que le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, avait porté plainte contre lui en cause un article publié dans son journal syndical au mois d'octobre 2023. Alors dans ce canard diffusé à petite échelle au personnel éducatif, Olivier Cuzon dénonçait le lancement de classe défense sécurité globale, un dispositif qui date des attentats de 2015 et au sein duquel des militaires viennent en classe pour, je cite un article de France 3, enseigner aux élèves les principes et valeurs de la République. L'enseignant se demande donc si la place des militaires est bien entre les murs de l'école et il s'appuie sur une enquête de Mediapart pour évoquer une culture droite droitière, misogyne et homophobe sous de trop nombreux képis. Fin de citation. Le ministère de l'Intérieur estime que ces mots, ils portent atteinte à l'honneur et à la considération de la police et de la gendarmerie nationale et que ça relève de la diffamation et paf, dépôt de plainte. L'audition du syndicaliste brestois a duré une heure. On ne sait pas encore si le procureur de la République de Brest engagera des poursuites ou non. C'est en tout cas un signal inquiétant du renforcement de la répression d'État, là, contre la liberté syndicale. On précise que la Ligue des droits de l'homme a rapidement apporté son soutien à l'enseignant mis en cause. Allez, après cette info du jour, on continue avec un reportage. Et après les campus américains et Sciences Po Paris, c'est l'Institut d'études politiques de Rennes qui a été occupé le temps d'une journée, mardi 30 avril. Alors que le nombre de Palestiniens tués à Gaza approche les 35 000, on le redit dans le sillon de l'attentat terroriste du Hamas le 7 octobre et de la riposte israélienne, eh bien des étudiants réclament aujourd'hui des mesures concrètes et une prise de position claire de la part de leur établissement sur le conflit. D'autres écoles, notamment à Lille et à Poitiers, ont été bloquées depuis. On vous propose un retour sur la mobilisation de mardi à Rennes avant l'intervention des forces de l'ordre dans la soirée.
Je m'appelle Maëlle. Ce matin, on a fait un petit atelier pancarte. Et donc, on peut lire des slogans tels « Le Vietnam a vaincu, l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra » ou « Non au racisme, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, Rennes Antifa, etc. » Il y a des drapeaux de la Palestine, il y a des drapeaux de Solidaires étudiantes et de l'Union Pirate, qui sont les syndicats de l'IEP de Rennes.
C'est Jade, on se situe devant l'IEP de Rennes, donc Sciences Po Rennes. On est là pour l'occupation de l'établissement qui a été votée hier en Assemblée Générale ouverte.
Est-ce que vous êtes membre d'une association étudiante en particulier ?
Je suis élue au conseil d'administration de Sciences Po Rennes en tant qu'élue de l'Union Pirate, donc de l'Union étudiante plus globalement.
Qu'est-ce que c'est l'Union Pirate ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
C'est un syndicat de lutte qui est implanté dans toute la Bretagne et du coup qui défend les intérêts des étudiants et des étudiantes au sein des conseils d'administration des facs, mais aussi qui a des revendications dans la rue, etc. Donc voilà, c'est un syndicat de lutte pour une fac, un IEP écologique, inclusif, solidaire, etc.
Quelles sont vos revendications ?
Au niveau local, on a plusieurs revendications. Tout d'abord, on demande à l'Université de Rennes de cesser ses partenariats avec des entreprises comme Thales qui vendent des armes à l'État d'Israël. On demande également une prise de position ferme et officielle de dénonciation du génocide et d'appel au cessez-le-feu. Et plus généralement, on demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la reconnaissance d'un génocide, le respect des traités internationaux, etc.
Hier soir, les autorités israéliennes ont transmis au Hamas une proposition de trêve. Ce document comprendrait donc un cessez-le-feu de 40 jours, avec la négociation de libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange des otages israéliens. Ce document pourrait signer un tournant dans la bande de Gaza. Ce que vous voulez dire aussi par ici, c'est qu'on ne doit pas attendre une réponse du Hamas, mais plutôt prendre d'ores et déjà une position claire.
Bah pour nous, il faut vraiment un cessez-le-feu de toute façon. Enfin, ce qui compte là, c'est la préservation des populations. Là, il y a un génocide, il y a des milliers de morts, il y a des enfants qui sont tués. C'est 40% des victimes, ce sont des enfants. Donc pour nous, c'est primordial genre, d'amener un cessez-le-feu, en fait, de justement arrêter ce massacre. Pour nous, c'est ça la priorité dans nos revendications.
Bravo les jeunes. Je passe dans le quartier, j'allais venir. Non, pour... Ouais, y a pas de mieux là ou quoi? Heureusement que vous êtes là.
Je m'appelle Camille, je suis étudiant en deuxième année à Sciences Po en master pour préparer l'INSP et je suis militant au sein du syndicat Union Pirate et ainsi qu'au sein de la France Insoumise.
Ce mouvement a commencé ce matin à 7h. Comment s'est déroulée la matinée?
Bah écoutez, la matinée s'est très très bien déroulée. On a pu commencer l'occupation dans le calme et la continuer également dans le calme. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, l'ambiance est très sympa, très joviale. Il y a de la musique, il y a des gens qui débattent, qui rigolent entre eux. Il y a des petits tournois de palais qui s'organisent et non, c'est très très sympa.
Et tout se passe à l'intérieur de l'établissement?
Alors oui, pour le coup, vu que c'est une occupation, on a un gros focus sur l'intérieur de l'établissement, même si ça nous arrive d'aller voir à l'extérieur un petit peu comment ça se passe. Mais oui, vu que c'est une occupation, c'est l'idée que ce soit vraiment Sciences Po soit le lieu où tout se passe, quoi. On s'inscrit dans un soutien total avec nos camarades dans les autres lieux d'études qui ont eux aussi mené des blocages et des occupations. Je pense notamment à la Sorbonne, à Sciences Po Paris, à Bordeaux où ça prend également. Et contre ce climat autoritaire dans lequel les voies de la paix sont immédiatement censurées ou reléguées immédiatement à des revendications qui ne sont absolument pas tenues par nous, et contre ce courant qui vient et vise à annuler les conférences dans les universités et tout simplement censurer les voix qui portent un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza.
Vous pensez qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression dans le cadre de ce conflit, justement ?
Absolument, absolument. Non seulement parce que l'État et la machine de répression qui la colle va venir réprimander toute tentative d'espace d'expression qui parlerait de ça. Et puis au-delà de ça, on voit sur les plateaux où les éditorialistes qui ne connaissent rien préfèrent parler pour ne rien dire et critiquer sans rien savoir, où toutes les voix de la paix sont censurées, traitées d'antisémites, et où aucun débat n'est possible, aucune n'est même audible. Alors que nous, tout ce qu'on demande, c'est un cessez-le-feu à Gaza, parce qu'il y a un génocide qui se passe, qui est quand même, il me semble, quelque chose de plutôt grave, et ce discours est à peine audible aujourd'hui.
Et comment se passe la discussion avec les membres de l'établissement ?
Bah écoutez, la discussion se passe très très bien. Les membres de la direction sont encore présents au sein de l'établissement. On a des contacts assez réguliers avec eux. Bon, on sait très bien qu'ils sautent pas de joie au plafond en voyant utiliser ce mode d'action. Mais écoutez, nous on est aussi là pour établir un rapport de force. Mais pour l'instant, les discussions sont tout à fait apaisées. Et on espère que ça va continuer comme ça. Si on peut éviter une intervention policière aussi brutale qu'on a pu le voir dans d'autres lieux d'études, ce serait gagnant-gagnant pour tout le monde, je le pense.
Est-ce que c'est un risque, justement, l'intervention policière à ce stade de la mobilisation ?
Bah écoutez, on sait que c'est quelque chose, en effet, qui pèse sur nous. On sait que la préfecture met justement la pression à l'établissement pour faire, quelque part, sauter sa franchise universitaire et forcer le délogement de cette occupation. Donc oui, on sait qu'on peut être délogé d'une minute à une autre. Mais écoutez, nous, ça ne nous fait pas peur. On est prêt à assumer le rapport de force jusqu'au bout. Une AG se tiendra dans les prochaines minutes pour décider un petit peu de la suite du mouvement. Mais oui, c'est une menace qui pèse sur nous. On l'accepte et en responsabilité, on est prêt à toutes les annonces. Saluter.
Il est 17h30, je crois. L'Assemblée générale s'est terminée il y a environ 20 minutes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débrief de ce qui s'est dit ?
Ce qui a été voté, c'est l'occupation des lieux de Sciences Po, parce qu'on a eu un ultimatum, enfin on n'a plus le droit d'occuper les lieux, sinon il y a la police qui intervient. Donc le directeur a dit que si dans 30 minutes on n'avait pas évacué, il donnait son accord pour que la police intervienne. Et donc les étudiants se mobilisent pour bloquer et pour continuer la mobilisation. Parce que le but après, c'est pas simplement de bloquer Sciences Po, évidemment, c'est que ça se propage à l'ensemble de Rennes et pas que.
Comment envisagez-vous la soirée et les jours suivants ?
on compte continuer en cortège le 1er mai pour lutter contre l'impérialisme au nom toujours de la lutte pour soutenir la Palestine. Le jeudi, il y a un rassemblement qui est prévu normalement, qui sera communiqué. Et ce qu'on veut dire, c'est que même si ce soir, si on est viré de Sciences Po et que la police intervient, le but, c'est que la mobilisation suive par des rassemblements, des manifestations, des conférences.
Est-ce que vous attendez des soutiens extérieurs ce soir ?
On appelle justement toutes les associations concernées, enfin les associations, les syndicats, à rallier la lutte étudiante. Enfin, la lutte étudiante... C'est pas la seule qui doit être à l'œuvre. Le but, c'est que tout le monde participe, et surtout, il y a besoin de renforts parce que là, actuellement, il y a un bon nombre d'étudiants qui sont dans Sciences Po, mais il y a aussi besoin de gens pour les soutenir à l'extérieur, s'il y a la police aussi, s'il peut y avoir des dérapages pour filmer, etc. Ce qu'on tenait à dire, c'est que c'est pas normal que les étudiants aient peur d'une répression policière. Enfin, ce sont nos universités, c'est un lieu d'études. Le slogan de Sciences Po, c'est une école humaniste pour toujours apprendre. Donc nous, on met à l'œuvre ce slogan, on met à l'œuvre nos cours. On n'est pas là pour des broutilles, on est là parce qu'il y a un génocide actuellement. Et d'avoir autant peur de cette répression policière qui nous censure, c'est quand même...
Dans un état de droit.
Dans un état de droit. Les étudiants bloquent, mais tout le monde a hyper peur. On risque la garde à vue, d'être traîné par terre. On a vu les vidéos qui ont tourné à la Sorbonne. On se demande encore si on peut parler et porter une voix et avoir une liberté d'expression réelle.
Ça fait écho en plus à certains cours que vous devez avoir, notamment sur le sujet.
Justement, c'est aussi une des revendications. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu pas mal de cycles de conférences, etc. Enfin, on a eu des interventions, et pour la Palestine, il n'y a rien eu d'organisé par l'établissement, rien du tout. En fait, c'est aux étudiants eux-mêmes qui ont dû organiser. Donc il y a eu une conférence d'organisée par les étudiants, mais c'est pareil, aucune initiative de l'école. Enfin, on est dans un établissement d'études politiques, on pourrait juste avoir une vision objective avec des intervenants divers qui nous parlent de ce sujet, même pour que tout simplement on apprenne. Et au final, on n'a pas ça. On pourrait avoir des cours sur des intervenants qui nous parlent du droit international, qui nous parlent des plusieurs positions, etc. Et ça n'a pas eu lieu. On demande clairement une position de l'université de Rennes sur ce sujet, sur cette question, comme elle a pu le faire sur la loi immigration. Il y a déjà un parti pris.
Davantage de transparence.
Oui, c'est ça. Et aussi une cohérence. Enfin, si on est capable de faire ça pour la guerre en Ukraine, ce qui a été tout à fait honorable et qui est très bien qu'on instruise les étudiants là-dessus, il faut aussi le faire pour tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, surtout pour un conflit qui dure depuis octobre.
On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des gens qui bossent, ils se font licencier, quoi. Parce que la Palestine, le drapeau palestinien en France, c'est interdit depuis tout le temps. C'est une histoire qui est très ancienne. Hein, c'est pas 7 octobre, machin. Ce conflit-là, on en a vu, vous n'étiez pas nés, mais il y a eu des moments chauds. En ce moment, c'est un moment très chaud. Et donc, ça éveille des jeunes qui disent « Ouais, la Palestine, j'ai entendu parler, mais... » Encore vous, c'est pas pareil, parce que
oui,
Sciences Po... Sciences Po, c'est
quoi,
pas un lycée, etc. Donc vous êtes un peu plus au courant.
Oui, c'est ça. Et puis on avait des cours, par exemple, de sociologie du conflit israélo-palestinien en deuxième année. Enfin voilà.
Vous aviez
des enseignements,
un peu
le
truc. Mais non, mais n'empêche que c'était quand même en sourdine, ce que je veux dire. Que,
oui.
On vivait avec, tout ça, ouais.
Oui, c'est un conflit qui date depuis 1940.
Dire sur ce conflit, c'est qu'en fait il dépasse le cadre du conflit israélo-palestinien, qui a réveillé en nous beaucoup de questions en fait, qu'elles soient de notre passé historique, colonial, de notre passé en tant que démocratie. Il y a beaucoup de questions qui se posent en fait en lien avec ce conflit, et les questions posées sont très caricaturales ou orientées. Et la parole est compliquée quoi, enfin, parce qu'on mélange un peu tout, il faut qu'on se réveille. C'est notre humanité qu'on met en jeu quoi.
Collection neuronale. Il faut voudrais qu'on sorte indemne de ce vide sidéral. Il n'y a plus ni carte ni circuit imprimé. Dans mon cerveau s'embrouillent les connexions privées. Beau bazar. Mais les itinéraires bis s'additionnent et le chemin choisi s'abandonne au hasard. Un labyrinthe s'ouvre, je vais repeindre les murs. La nuit fertile, je m'abonne à des milliers de lieux où je saurais trouver qui être. Durant la veille, je m'enfuis dans les pédales du doux, d'où j'évolue vers l'avenir libéré. De loin, ces lubies sont comme des billes sans valeur. Mon débit savait leur dire dans la cour de l'école. Mais j'ai grandi. Un labyrinthe s'ouvre, je vais repeindre les murs. Les portes de ma collection de renards. Il faudrait qu'on sorte indemne de ce vide sidéral.
Ça colle à l'ambiance actuelle. C'était le morceau Beau Bazar par Le Crapaud, un morceau qui a été repéré par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à la radio, et extrait d'un album qui s'appelle Mauvais Sillon. C'est sorti début février. Un 13 titres qui forme le premier album solo pour Étienne Monoury, un Rennais d'adoption qui se cache donc derrière ce nom du Crapaud. Il fait par ailleurs de la musique au sein de divers projets. Allez, la reine, l'émission d'information locale de Canal B se poursuit avec maintenant une interview. Joël Da Silva, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous présente, vous êtes l'un des membres fondateurs de Point Barre, cette association qui fait de la création audiovisuelle, dont on a déjà relayé plusieurs fois le travail sur les ondes de Canal B. Et aujourd'hui, on parle de votre nouveau projet, ça s'appelle Discrimination. Avant ça, quand même, on redit un mot sur les équipes de Point Barre et puis un peu vos projets phares ces dernières années.
Oui, alors on a créé l'association sur un projet de réalisation de films avec les personnes âgées, où là du coup on était allé en maison de retraite. Alors c'était en 2010 les premières fois, et donc on avait réalisé comme ça une série de 6-7 films dans des maisons de retraite où les anciens décidaient eux-mêmes du sujet sur lequel ils allaient travailler, et ensuite on associait des classes de scolaires qui eux travaillaient donc avec du dessin, des textes sur le même thématique, et on organisait une rencontre lors d'une projection, et les familles qui pouvaient se rendre disponibles venaient. Et ensuite, on choisissait le titre du film. On faisait voter les enfants, donc au cryomètre. Donc, du coup, c'était pas mal. C'était assez. Voilà. Et donc, on a fait ce projet-là. Ensuite, on avait fait des projets comme Génération Galère sur les jeunes en situation de précarité, mais tournés vers les institutions. On a pu faire aussi des travaux autour de. Je pense à Train Train, qui là, pour le coup, est plus un concept. Plus artistique dans le cadre de l'arrivée de la ligne grande vitesse, où ça se décline donc en site internet et en installation. On a travaillé aussi sur la thématique du français langue étrangère. Là, ça s'appelle onestici.net, c'est encore un site internet où là on a des témoignages donc d'apprenantes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient accepté de témoigner, et aussi d'enseignants, de chercheurs. Ça reprend un peu la forme de ce qui est devenu ensuite discrimination. En fait, du projet On est ici, on a rencontré Philippe Blanchet,
sociolinguiste de l'université Rennes 2.
Voilà, qui a développé le concept de glottophobie, donc qui a été voté en assemblée comme un critère de la discrimination.
Donc discrimination par la langue.
Voilà, exactement, par l'accent et la langue. Et donc on l'avait rencontré dans ce cadre-là, et à partir de 2019, j'avais commencé à vouloir travailler sur cette thématique des discriminations, et en fait en un seul film ou en une seule vidéo c'est impossible à traiter parce que c'est tellement vaste, et on trouvait aussi que la forme du site internet, qui est en accès libre, comme tout ce qui a été précité avant... Hein. Donc voilà, en fait, l'idée, c'était de créer un recueil de témoignages. Et on s'est dit, en fait, que le sujet, déjà, d'une, on le connaissait qu'à travers nos expériences personnelles. Donc c'était peut-être un peu léger. Et que ça pouvait être intéressant, déjà, de rencontrer des personnes qui travaillent sur cette thématique depuis longtemps. Donc on a rencontré en premier lieu Philippe Blanchet, comme je le disais, pour On est ici. Et ensuite, on a rencontré Anne Morillon, qui, elle, est sociologue et qui travaille sur ces questions depuis une vingtaine d'années. Et qui nous a fait en fait une présentation assez... On a fait un entretien d'1h30, on en a retiré 15 minutes qui permettent de poser le sujet.
Que sont les discriminations? Quelles en sont les causes?
Voilà, en fait ce qui est intéressant avec le témoignage d'Anne Morillon, c'est qu'elle fait à la fois la présentation de ce que sont les discriminations, le fait qu'il y a un cadre légal qui légifère en fait ce phénomène sociétal, et que du coup il y a des ressorts, des recours aussi qui peuvent être envisagés et des possibilités de voir les choses évoluer en tout cas.
Donc là aussi, avec discrimination, on va être sur du documentaire réalisé au long cours et puis dans une dimension collaborative avec les participants. On n'a pas dit combien vous étiez chez Point Barre, surtout deux personnes mobilisées.
On est deux, souvent à l'initiative de projets, mais ensuite, en fait, comme on travaille dans l'audiovisuel et que c'est de l'intermittence, au coup par coup, il y a d'autres personnes qui viennent et qui travaillent. Donc, par exemple, on avait pu tourner aussi des épisodes pilotes pour une série où on a fait travailler une dizaine de comédiens. On fait régulièrement appel à des monteurs. On fait régulièrement appel aussi à des mixages son, enfin des étalonneurs. Voilà, en fait, l'idée, c'est que comme nous, on a cofondé la structure, voilà, c'est souvent des initiatives qu'on peut développer. Mais il y a aussi toutes les structures associatives qui, parfois, ont besoin d'outils de communication et viennent nous voir. Et ça nous amène aussi à travailler avec plein d'autres personnes. Là, en ce moment, on travaille aussi sur l'histoire de la sécurité sociale. Donc, on rencontre plein d'acteurs qui ont dirigé des caisses qui, par rapport à l'histoire de la Sécu. Et là, c'est Jean-Yves Dagnay, enfin un réalisateur qui pilote, en fait, qui est l'auteur et qui conduit les entretiens. Et nous, en fait, on fait la technique dessus, voilà.
Donc, on comprend que parmi les sujets qui vous animent, il est beaucoup question de lutte sociale. C'est le cas avec ce projet Discrimination qui s'inscrit sur un temps long puisque l'aventure, elle a commencé en 2019.
Ouais, c'est ça. La première écriture du projet, c'était 2019. Et en fait, première intervention qu'on fait avec Prisme, parce qu'en fait, c'est pareil, Prisme, c'est un centre de formation rennais qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, peut-être même plus. Et en fait, on travaille étroitement depuis Génération Galère, en fait, depuis 2013 à peu près. Et donc, on a développé comme ça tout un tas de projets. On a fait aussi, par exemple, avec eux Filmatrage, qui est un autre site internet, où là, du coup, c'était des films réalisés avec des jeunes, mais c'était des courts-métrages de fiction ou alors des documentaires. Et donc, on a contacté Prisme pour évoquer cette idée de travailler sur la thématique des discriminations. Eux, ils ont trouvé ça super par rapport à leur public. C'est des jeunes souvent qui ont arrêté l'école assez tôt, ou alors qui sont primo-arrivants, des profils comme cela. Et donc nous, on a commencé la première écriture, comme je disais, donc c'était 2019, 2020, Covid.
Petite pause.
Petite pause assez casse-pied pour tout le monde. 2021, ça reprend, comme ça peut. Et ensuite, après, par contre, ce que nous, on s'était dit, c'est que nous, en fait, on documente des sujets. On n'est pas spécialiste de sujets, donc c'est pour ça qu'on est allé rencontrer, comme je disais, Anne Morillon, pour avoir un premier support à présenter aux jeunes, en fait. Et donc très vite aussi, plutôt que de partir sur l'idée d'un seul film, parce que le sujet est tellement vaste, il y a 27 critères de discrimination maintenant, il y en a 25 officiels, 2 qui sont en navette parlementaire, 3 maintenant même, parce qu'il y a la glottophobie, en fait, qui n'a toujours pas été vraiment votée, qui est encore en navette parlementaire entre le Parlement et le Sénat. Il y a la fracture numérique aussi qui va devenir un critère de la discrimination, et il y a maintenant aussi les cheveux. Voilà,
ouais.
Les cheveux, c'est le dernier. Donc voilà, il va y avoir en tout près de 28 critères de la discrimination. Donc nous, on ne connaissait pas véritablement bien le sujet, on était intéressés par ça. Et En fait, le procédé qu'on a mis en place, c'est d'aller rencontrer des groupes de jeunes, à chaque fois entre 8 et 15, selon les possibilités, les disponibilités des jeunes, et de faire une présentation, en fait, de ce que sont les discriminations. Donc, on visionnait la vidéo d'Anne Morillon. On prenait le temps de disséquer le propos, parce que c'est quand même dense, il y a quand même beaucoup d'informations, et de revenir et de vulgariser, entre guillemets. Et ensuite, on proposait donc aux jeunes de découvrir les métiers de l'audiovisuel et d'aller à la rencontre d'une autre personne qui pourrait aussi nous parler des discriminations, soit qu'ils ou elles ont pu vivre, soit des personnes qui travaillent sur ce champ de recherche.
Du coup, moi, une fois, j'étais dans le bus. Et j'étais avec ma sœur, et ma sœur et moi, on est toutes les deux noires. Et du coup, on s'est assis à une place, et il y a une dame qui est arrivée, c'était une dame, plutôt âgée. Et cette dame, elle nous a demandé de partir. On lui a dit qu'il y avait de la place dans tout le bus, parce qu'on était, enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bus. Et la dame, elle a dit non, je veux m'asseoir là. Et on lui a demandé pourquoi. Et elle a dit, je veux m'asseoir ici parce que c'est ma place. Et on lui a dit que non, en fait, les places dans le bus ne sont pas attribuées. Il n'y a pas son prénom qui est écrit sur le bus. Et puis elle a dit, de toute façon, vous êtes noire, donc vous dégagez. En fait, vous devez aller à l'avant du bus. Et on a dit,
C'est pas grave.
J'ai pas envie de pleurer en vrai, mais... du coup, ça m'a touchée.
Alors pour faire simple quand même, pour parler de discrimination, on le redit, il faut que plusieurs facteurs soient réunis. On le découvre dans le détail sur le site de votre projet discrimination.eu. Une discrimination, c'est un traitement moins favorable envers une personne ou un groupe de personnes qui s'exprime dans différentes situations. On peut parler de l'accès à l'emploi, au logement ou encore à l'éducation. Et donc selon de nombreux critères, qu'il s'agisse de l'identité de genre, de l'origine, du handicap, de la grossesse ou encore de la religion, il se trouve quand même que sur le sujet des discriminations liées à l'origine, je vais m'arrêter là-dessus, c'est un sujet qui est hautement politique. Depuis les années 90, il y a des épisodes d'émeutes urbaines qui sont relayés médiatiquement à chaud, en lien direct avec des discriminations qui sont vécues par des jeunes en quartier populaire. Vous insistez là avec ce projet, il ne s'agit pas d'aller exacerber des tensions, mais plutôt d'aller faire entendre certaines réalités en tendant votre micro et en mettant la caméra aussi sur les premiers concernés.
En fait, nous, l'idée, c'était de comprendre le mécanisme discriminatoire, comment la mécanique se met en place. Donc, il y a un cadre légal, il y a un cadre législatif. Mais par exemple, c'était intéressant de découvrir que spontanément, quand on rentre dans une pièce où on ne connaît personne, on discrimine tous. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'enjeu de pouvoir. On a juste le pouvoir de se rapprocher de la personne auprès de laquelle on a l'impression d'avoir le plus de codes en commun. C'est juste le seul pouvoir que l'on ait. Et donc l'idée en fait de la discrimination, et c'est ce qui était intéressant en travaillant sur ce sujet, c'est de découvrir qu'en fait c'est un enjeu de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a un pouvoir, mais quel que soit celui-ci, hein, ça peut aller du videur à l'entrée d'une boîte de nuit à un gouvernement ou une gouvernance, enfin voilà, un chef d'entreprise ou pas. Et donc en fait le phénomène de discrimination en soi, quand on se promène dans la rue, on projette en fait un imaginaire que l'on s'est construit à travers sa construction personnelle, l'environnement dans lequel on a grandi, et donc on va faire des projections
avec mentales, nos stéréotypes,
avec des stéréotypes, des préjugés, avec des distinctions qui peuvent être faites entre les deux, parce qu'il y a ce qui émane de soi et de sa propre expérience et de son imaginaire, et tout ce qui nous est envoyé entre guillemets par tous les médias confondus à l'esprit, et donc du coup on va faire cette projection, mais par contre ça n'a pas de conséquences directes et réelles sur la personne que l'on discrimine à ce moment-là. Par contre, et c'est là où le cadre légal intervient, ça a commencé d'abord aussi par les lois pour les personnes en situation de handicap. Il y avait eu quelques textes aussi au préalable avant par rapport aux populations aussi algériennes. Voilà, il y avait eu des premiers textes de loi qui avaient été votés dans les années 70-80, mais la politique de lutte contre les inégalités et contre les discriminations, elle a débuté en 2001, en fait.
Mmh. Assez récemment, finalement.
Ouais, très très récemment, en fait, à l'échelle de l'histoire d'un État, c'est rien, en fait.
On peut aussi ajouter que là, il y a justement un premier rapport sur les discriminations qui vient de sortir fin 2023, qui a été réalisé par l'Observatoire des inégalités, qui explique que c'est très difficile de chiffrer justement les discriminations, parce qu'il faut soi-même en avoir conscience, être informé, etc. Mais avec donc 18% de la population qui déclarent avoir subi au moins une discrimination dans les 5 années. Dans le projet de discrimination, vous êtes donc allé donner la parole à des personnes victimes de discrimination. Vous les avez rencontrées par le biais de Prisme, aussi de la mission locale
Wicker. Ouais, voilà, Wicker qui nous avait accueillis aussi pendant un temps. C'était dans le dispositif, ce qui est devenu maintenant le contrat engagement jeune, là, le CEJ, mais qui s'appelait la garantie jeune, qui était un dispositif qui est né en fait en 2015 à peu près, quoi.
Et dispositif d'insertion.
Ouais, voilà, dispositif d'accompagnement vers l'insertion. Donc en fait, le jeune, il touche une petite indemnité pour assister à ses rendez-vous, montrer les démarches qu'il fait. Enfin, c'est comme on donne pas de RSA jeune. Au moins de 25 ans, c'est un moyen en fait de faire exister et de permettre aux jeunes de subvenir à ses besoins, en tout cas dans la mesure de ce que ça peut permettre. Et donc en fait, ils ont des temps de travaux collectifs, et là on travaillait donc avec des jeunes qui étaient d'horizons complètement différents. C'était pas tout à fait la même chose qu'avec Prisme, où là en fait on est sur un public qui est éloigné, on va dire, de la scolarité. Là on a pu intervenir auprès de jeunes qui, pour certains, je sais pas, avaient arrêté l'école en 3e, et d'autres avaient déjà un master 2, mais comme en fait ils étaient dans une démarche d'aller vers une recherche de voie professionnelle ou de formation ou de choses comme ça, voilà. Donc on a intervenu, je pense que depuis 2020, on a dû intervenir auprès de un peu plus de 200, 250, peut-être même 300 jeunes, en fait, en tout, qui ont en fait à chaque fois été sensibilisés à cette question-là. Mais ce qui fait qu'en fait, on a un ratio propos récoltés en images et nombre de jeunes qui ont
participé à la démarche,
qui ont été sensibilisés à la question des discriminations, qui est assez faible, parce que nous, on a fait ce constat-là aussi, c'est que autant il y a 5-10 ans, les jeunes, quand ils voyaient des caméras, ils étaient fascinés et ils étaient exaltés et tout ça. Et maintenant, en fait, ils ont compris que leur image, les réseaux sociaux et tout ça, ça peut très vite en fait être détourné, malmené.
Ça peut les desservir, donc il y a peut-être une méfiance, non ?
Complètement. Mais je trouve ça, pour le coup, alors bon, ça fait pas.
Ça aide pas le projet, mais c'est une bonne chose.
Voilà, mais je trouve ça vraiment plutôt sain, en fait. Même si pour le coup, ça freinait quand même pas mal l'ambition qui était la nôtre d'avoir un collectage, on va dire. Qui puisse, après on s'est jamais fixé pour objectif par exemple d'avoir un témoignage par critère de discrimination, c'était un peu ridicule, donc on s'en est tenu en fait aux jeunes qui acceptaient de participer et qui validaient ensuite, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les vidéos qui sont mises en ligne, elles ont toutes été validées par les protagonistes eux-mêmes. Ils ont pu assister même quand ils le voulaient au montage, et pareil pour les chercheurs.
On retrouve donc certains témoignages sous forme vidéo, audio et aussi à l'écrit sur le site internet discrimination.eu. Écrit, c'est à venir, parce qu'en fait les auditeurs là qui nous entendent peuvent laisser leurs témoignages en ligne. Il y a un petit formulaire qui est prévu à cet effet. Tout a été mis en ligne, là vous arrivez en fait à la fin du projet sur la publication des témoignages vidéo et audio.
Alors en fait, nous, de faire vivre le site, on avait créé dès le début cet onglet contribuer, parce qu'on s'est dit que oui, peut-être il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être connues ou reconnues, en tout cas sur un site internet sur cette thématique-là. Donc on avait prévu cet onglet, en fait, c'est un formulaire de prise de contact avec nous, et ensuite on voit la forme sous laquelle la personne, elle souhaite donner son témoignage, apporter sa contribution au site internet. Ce qui a fait évoluer le projet, en fait, c'est aussi de commencer à aller rencontrer les autres protagonistes, donc par exemple Christelle Maisonneuve, qui est, elle, chercheuse en psychosocial. Son entretien, il a été préparé avec le groupe de jeunes, donc une quinzaine de jeunes, et ensuite l'entretien, il a été filmé avec les jeunes derrière la caméra, la conduite de questionnaire a été menée par une jeune elle-même, et voilà, et donc en fait le projet, il a glissé comme ça vers cette possibilité-là, parce qu'en fait on se rendait compte aussi que c'était un bon moyen de les impliquer réellement dans le dispositif, et on voulait pas qu'ils aient l'impression qu'on vient, on se pointe un après-midi et on prend leurs histoires et après on part. Et puis ciao, vous nous reverrez plus, on fait ce qu'on veut, en fait. Il y avait toujours cette défiance, mais je trouve ça vraiment bien, par contre, quoi, qu'ils aient capté que, ouais, en fait, leur image, leurs propos, tout ça, internet, c'est pas que chouette, quoi. Donc voilà. Je me suis un peu paumé sur la question.
C'était de savoir si tout était en ligne ou s'il y avait encore des choses à venir. Ouais.
En fait, pour le moment, le site, il existe comme il est là. On a filmé la venue de Claire Hédon lors du lancement de l'Observatoire des discriminations de Rennes Métropole. Elle est intervenue dans le cadre du festival Nos Futurs, La Parole à la Jeunesse. Et donc, on a filmé son intervention, sachant que le groupe de jeunes qui venait avec nous pour filmer son intervention avait préparé les questions qui lui ont été adressées. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça sera mis en ligne dans les semaines à venir. Et ça sera en fait pour nous, je pense, la fin du chapitre métropolitain du projet, et en partenariat avec Études et Chantiers, donc une autre structure d'accompagnement, mais là c'est tous âges confondus. On essaye là de développer le projet, mais sur une échelle européenne, en partenariat notamment avec deux structures, une qui fait de l'insertion par le sport en Turquie, à Istanbul, et une autre qui est au Portugal, qui fait de l'insertion pareil des jeunes, mais autour de la thématique de l'écologie, et qui se retrouve aussi confrontée à des difficultés de discrimination de plus en plus, parce que voilà, des pays comme le Portugal, qui célèbrent les 50 ans de la chute de la dictature, se retrouvent aussi avec un parti d'extrême droite, par exemple, qui n'existait plus et qui, en 5 ans, maintenant fait 20% aux législatives, par exemple.
Ça change la donne sur le sujet des discriminations.
Disons, voilà, ça évolue. En fait, ça évolue à l'échelle européenne. Et donc, c'est pour ça aussi que donc Pierre-Yves, qui travaille pour Études et Chantiers, quand je lui ai parlé du projet de discrimination sur lequel nous on travaillait, il m'a dit, mais nous, ça serait génial qu'on puisse le développer en partenariat avec des acteurs d'autres pays.
Sur le sujet des discriminations qui ont été rendues très concrètes à travers les témoignages de jeunes qu'on peut retrouver en ligne, est-ce qu'il y en a un qui vous a peut-être plus marqué que les autres ?
En fait, moi, ce qui me marque surtout, c'est l'approche de lutte contre les discriminations. C'est plus ça. Et je pense que, générationnellement parlant, il y a, on va dire, l'école universaliste. Voilà, qui...
On est tous pareils.
Voilà, il y a ça, il y a cette école, et puis il y a ce qu'on appelle maintenant, j'ai même pas envie de dire le mot, mais enfin bref, le wokisme ou l'approche par communauté, en fait, quoi. Et en fait, j'entendais des entretiens, donc je me suis quand même pas mal documenté, et je trouve que c'est pas mal que ce soit complémentaire et que ce soit pas vu comme des choses antagoniques. C'est-à-dire que à chacun sa méthode ou son approche pour lutter contre les discriminations, dès lors que l'intention est saine, même s'il y a des dommages collatéraux, des choses qui ne satisfont pas, tout le monde ne pourra pas être satisfait des approches qui peuvent être données, mais en tout cas, ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire un désir d'égalité de traitement et une fin de... pas ségrégation, mais encore que si, ça pourrait presque être utilisé, mais en tout cas, quelque chose qui apaise et qui veut aller vers un mieux vivre... les uns à côté des autres, les uns avec les autres, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Et donc, c'est pour ça que certains ont l'impression de se faire déposséder d'un idéal qui était l'universalisme, et c'est dommage, parce que pour eux, c'est quelque chose qui, parfois, les ont construits. Mmh. Et d'autres, nouvelles générations qui, elles, en fait, veulent un peu déconstruire ce mythe d'un universalisme qui permettrait une égalité pleine et entière, avec des revendications qui sont tout à fait légitimes pour chacun et chacune de leur lutte. Et ça, je trouve ça intéressant, en tout cas, d'essayer de... Si on parvenait déjà à imaginer que c'est complémentaire et non pas antinomique, ça serait pas mal.
Voilà. Si on continue sur le sujet des solutions, donc c'est Christelle Maisonneuve qui est chercheure en psychologie sociale qui parle du sujet de l'empathie. Il se trouve qu'avait été annoncée la mise en place de cours d'empathie au moment des émeutes suite à la mort du jeune Naël. L'empathie, pas une solution magique a priori.
Jane Elliott, c'était une Américaine, elle était tellement effrayée en fait de la condition des personnes noires aux États-Unis qui étaient victimes de lynchage qu'elle s'est dit « je ne peux pas ne rien faire ». Donc elle est blanche. Et elle a donc fait un projet où elle a dit à ses élèves qu'un matin, donc, tous les élèves qui avaient les yeux bleus, on savait qu'en fait ils étaient moins intelligents, etc. Donc elle leur a mis un certain nombre un petit dossard sur le dos, etc. pour leur dire que du coup ils étaient moins bien traités que les autres, mais de façon volontaire et avec évidemment l'assentiment des parents. Et donc le premier matin, le premier jour, c'est eux qui sont victimes des discriminations. Donc elle est un petit peu dure avec elle leur fait vraiment subir des discriminations. Et puis on voit que tous ceux qui n'ont pas les yeux bleus, qui sont dans le groupe des privilégiés, du coup ils ont le droit d'aller plus tôt en récréation, ils ont plein d'avantages, et puis ils sont très contents de les avoir, et en fait ils s'occupent assez peu du groupe discriminé. Et le lendemain, elle dit, ah, bah, je me suis trompée, en fait, c'était l'inverse. Et en fait, là, ce qu'elle attendait, c'était de voir la réaction de ceux qui avaient été discriminés la veille. Est-ce que, du coup, ils allaient être empathiques et se dire, bah, je ne vais pas faire subir à l'autre ce qui m'a fait subir. Et donc, bon, la fin de l'histoire montre qu'au final, ils sont plutôt dans une forme de revanche. Et que, voilà, du coup, ça ne marche pas forcément, cette posture empathique. Ça ne marche pas, voilà, en tout cas, dans les contextes dans lesquels elle est.
Toutes ces questions sont à découvrir dans le détail en ligne sur le site internet discrimination@eu. Le site donc de ce projet, qui est le dernier projet en date pour l'association Point Barre, dont vous êtes l'un des membres fondateurs, Joël. Une association de création audiovisuelle, voilà, dont on relaie régulièrement les projets. Et on redit qu'on peut toujours contribuer, si on a soi-même vécu des discriminations, à l'aide d'un petit formulaire pour entrer en contact avec vous, qui est à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful. No need to run.
Smith & Burroughs avec le titre Wonderful Life sur Canal B. C'était le choix musical de Joël Da Silva qu'on vient d'entendre en studio dans une interview. Et ce morceau, vous pouvez le retrouver sur l'album Funny Looking Angels. C'était un disque de Noël qui est sorti en 2011 et qui réunissait la voix d'un membre du groupe Editors et du batteur des Razorlight. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène, l'émission d'information locale, et c'est le moment pour une recommandation du jour. Si vous êtes fidèle, vous le savez, la recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils, souvent d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcasts, de documentaires, voire d'associations à suivre. On prend là un peu d'avance pour annoncer un événement qui a lieu ce week-end, direction l'écomusée de la Bintinet à Rennes, dimanche 5 mai de 14 à 18h pour la traditionnelle tonte des moutons. Chaque année, le saviez-vous, un mouton produit 2 à 5 kilos de lait. Il est donc indispensable de leur enlever un peu de ce poids pour éviter aussi la prolifération des parasites. À l'écomusée, c'est Florence Berthaud, une tondresse bretonne, qui s'en occupera dimanche avec un outil traditionnel, une sorte de grosse paire de ciseaux. Et en marge de la démonstration de tonte sur différentes espèces, plusieurs ateliers seront proposés au public. Tissage archéologique, crochet et tricot ou encore teinture végétale. De quoi s'occuper, et c'est un événement qui est gratuit. Le détail est à retrouver en ligne sur écomusée. Musée-rennes-métropole.fr. Et avant de se quitter, je vous laisse avec Corentin, volontaire en service civique, qui reçoit, comme toutes les deux semaines, la CIMAD pour sa chronique.
Bonjour Hélène et Marion, vous êtes intervenante juridique à la CIMAD, association de soutien aux personnes exilées. Toutes les deux semaines, vous nous donnez à voir ce qui se passe entre les murs du centre de rétention administrative. Aujourd'hui, avec un témoignage.
Sofiane est marocain. Il est arrivé en France à l'âge de 14 ans et demi. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé en France. À sa majorité, malheureusement, il n'a pas été accompagné pour une demande de titre de séjour et s'est retrouvé donc sans papier. Les ennuis n'étaient pas loin derrière, avec une condamnation pour vol. Il a 22 ans à son arrivée au centre de rétention. Étant parti très jeune du Maroc, il n'avait jamais fait de papier dans son pays, qui ne l'a donc jamais reconnu comme l'un de ses ressortissants. Pourtant, la préfecture persiste à le maintenir en centre de rétention. Il a été libéré au bout de 60 jours d'enfermement. Dans ce témoignage, il nous raconte des situations particulièrement choquantes dont il a été témoin, pratique malheureusement courante en centre de rétention.
La nourriture déjà. Une fois par semaine, c'est bon. Les autres jours, jamais. C'est immangeable. Tu manges, t'as mal au ventre. Dans les chambres, c'est pas propre. On a envie de faire le ménage, mais on n'a pas les produits pour le faire. Du coup, ça reste dégueulasse. Même quand quelqu'un passe pour faire le ménage, c'est pas propre. Les policiers provoquent, ils jouent sur le moral. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Pour laver les vêtements, ils nous appelaient par le micro. Des fois, le micro ne marche pas, ils appelaient quand même. Quand on venait pour la laverie, on nous disait que c'était trop tard. Ça m'est arrivé deux fois déjà. Et je reste avec des vêtements sales. Quand la police vient expulser les gens, c'est avec force. Ici, au centre de rétention, si on dit « non, je refuse », ils vont te plier. Je ne sais pas combien de policiers sont sur la personne, au moins 10. Ils le menottent, ils le scotchent, ils lui mettent un casque. Ils le portent à 4 comme un cercueil. Quand on arrive à l'aéroport, on le jette comme un colis. J'ai entendu des gens qui se balafrent, qui se coupent parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Malgré tout ça, la police les ramène de force. En 2019, j'étais déjà au CRA. Je dormais au bâtiment 1, mais je suis allée dans le bâtiment 5 pour parler à un ami. 25 policiers sont arrivés. Avant qu'ils arrivent, on passait la nuit tranquille, on était 3 dans la chambre. Je me suis endormie dans la chambre d'un autre monsieur. Il devait être expulsé ce jour-là. Lui-même, il ne savait pas. Et lui, il dormait par terre sur un matelas dans la chambre. J'étais mineure à l'époque, mais il ne me croyait pas. J'avais pas de preuve de ma minorité. Quand la police est rentrée pour expulser le gars, ils m'ont attrapée. J'étais en train de dormir. Le policier a mis son genou sur moi. J'ai ouvert les yeux, le policier était sur moi, le poing levé en menaçant de me frapper. Quand j'ai essayé de bouger, il a forcé pour me bloquer pour que je bouge pas. Alors que j'ai rien demandé, j'étais dans mon sommeil. Le monsieur qui dormait par terre, qui devait être expulsé, leur a dit « Ne me mettez pas de scotch, pas de casque, je vais venir avec vous, je vais rentrer dans mon pays. » Il n'a rien fait, il n'a pas forcé, il n'a pas menacé, pas crié. Il parlait calmement. Les policiers l'ont quand même menotté, scotché, casqué. 4 policiers l'ont porté comme un cercueil. C'est réel, c'est ce que j'ai vécu au centre de rétention administrative. Un autre monsieur faisait sa prière. Il était sur le tapis. Les policiers sont arrivés, ils l'ont pas respecté. Ils l'ont plié. Lui, il était choqué, il était concentré sur la prière. Il a résisté pour ne pas être menotté. Ils l'ont fait tomber par terre. Ils l'ont traîné par terre avec son tapis de prière. Pareil, scotché, menotté, casqué. Porté par 4 policiers, comme un cercueil. C'est malheureux, je te jure. Les scènes comme ça, ça se passe tout le temps dans la nuit, 3h, 5h du matin. Ils rentrent comme des voleurs dans toutes les chambres. Ils réveillent tout le monde pour voir s'ils ont chopé la bonne personne qui doit être renvoyée ce jour-là. Il y a des gens qui ont leurs enfants ici en France. Ils avaient des papiers. Même eux, ils les ramènent au centre de rétention. Malgré la famille, leurs gosses en France, ils sont expulsés. Même pour dire expulser un jeune, sans famille, avec force, c'est pas bien. Mais c'est encore pire d'expulser un monsieur qui est papa et qui a des enfants ici en France, sa femme. Quand le papa, il est renvoyé chez lui, les enfants, ils vont où? En famille d'accueil, en foyer, à la rue? Et ouais, c'est trop triste. Moi, quand je vois ça, j'ai peur. J'ai trop mal au cœur pour tous ces gens-là. Je pense à tous ces gens qui ont été renvoyés dans leur pays et je pense à leurs femmes qui sont restées ici en France, à leurs enfants. Je ne dors pas bien.
C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.